va à l'extrême de quelque chose. Alors c'est quoi cet extrême auquel on va? Eh bien, c'est on va à l'extrême d'une connaissance. Vous savez, il y a un principe qui est qu'on doit boire à Pourim au point de ne plus faire la différence, de ne plus savoir. C'est très intéressant, de ne plus savoir. Or, ce qui fait l'ornement de l'homme, c'est justement la connaissance. Et là, on demande de perdre la connaissance de la différence entre béni soit Mordechai et maudit soit Aman. Arour Aman, Baruch Mordechai, on ne fait plus la différence. Et donc, c'est qu'on veut accéder à un niveau de connaissance qui est au-delà de la connaissance. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Je reprends une halakha intéressante. Vous savez qu'il y a une halakha qui est que on ne fait pas le Hallel à Pourim. À chaque fois qu'il y a une fête de libération, on fait le Hallel. À Pessah, on fait le Hallel. Hanouka, on fait le Hallel. Yom Ha'atzmaout, on fait le Hallel. Et à Pourim, on ne fait pas le Hallel. Alors, il y a trois opinions chez les Chachamim, dans la Gemara, à propos de cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le Hallel à Pourim? Alors, il y a trois réponses qui sont des... Oui, vas-y. Parce que c'est un miracle qui s'est fait en dehors d'Eretz Israël, donc on ne peut pas se réjouir. C'est vrai. Deuxièmement. C'est tout? Hein? Quoi par rapport à la Torah? Que quoi? Oui, mais Hanouka aussi, c'est pas écrit dans la Torah, on fait le Hallel quand même. Non, c'était tout l'âme Israël, d'Afka. La deuxième raison, c'est parce que on n'a pas accédé à l'indépendance. La Gemara dit, on ne peut pas dire Alléluia, Alléluia, Avde Hashem, louez vous autres les serviteurs de Dieu lorsque nous sommes les serviteurs de Hachveroch. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le Hallel si l'événement n'a pas entraîné l'indépendance politique. Tandis que à Hanouka, il y a eu indépendance politique. À Yom Ha'atzmaout, il y a eu indépendance politique. À Pessah, indépendance politique. Donc on fait le Hallel. Mais quand il n'y a pas d'indépendance, pas de Hallel qui tienne. D'accord? Et donc, ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que, dit la Gemara, la Megillah sert de Hallel. Ah bon? La Megillah sert de Hallel. Ça veut dire quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le Hallel, on est obligé de raconter les récits de la Megillah. C'est-à-dire que la Megillah raconte quelque chose de problématique, la livraison de la royauté d'Israël aux nations. Et ça, ça remplace le Hallel, voyez-vous. Mais il y a quelque chose de très fort qui s'est révélé à ce moment-là, c'est l'éternité d'Israël. Parce qu'il y a une petite question que je voudrais vous poser. Vous connaissez le texte de la Megillah? Vous connaissez le texte de la Megillah, n'est-ce pas? Mais oui, il y a un verset à la fin de la Megillah qui dit comme ça. « Vimeh ha-Purim ha-Ele, ces jours de Purim, lo ya'avru mitoch ha-Yehudim, ne disparaîtront pas du sein des Juifs, vezichram, et leur souvenir, lo ya'souf mizaram, ne disparaîtra pas de leur descendance. » Vous connaissez le verset? Je reprends. À la fin, vous allez le connaître. « Vimeh ha-Purim ha-Ele, lo ya'avru mitoch ha-Yehudim, ces jours de Pourim ne disparaîtront pas du sein des Juifs. Vezichram lo yasuf mizaram, et leur souvenir ne quittera pas leur descendance. » Vous avez compris maintenant le verset? Tu connais le verset maintenant? On va le reprendre une troisième fois. À la fin, vous avez une interro là-dessus. Vimeh ha-Purim ha-Ele, lo ya'avru mitoch ha-Yehudim, ces jours de Pourim là ne disparaîtront pas du sein des Juifs. Vezichram lo yasuf mizaram, et leur souvenir ne quittera pas leur descendance. Question. C'est qui la descendance des Juifs? C'est les Juifs. Donc le verset se répète. Ça s'appelle de la lourdeur. N'est-ce pas? Alors que, on dit voilà, les Juifs n'oublieront pas et leur descendance n'oubliera pas. Mais la descendance des Juifs, c'est les Juifs. D'accord? Pour souligner, c'est-à-dire pour insister. Hein? Non, tout simplement. Je vais vous dire ce que dit le natif de Vologine, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin de Vologine au XIXe siècle, qui explique Quand on dit Yehoudim, il s'agit des Juifs. Et quand on dit leur descendance, il s'agit d'Israël. C'est pas la même chose. Les Juifs, c'est le mode d'existence hébraïque pendant le temps de l'exil. Mais Zaraham, la descendance des Juifs, c'est quand Israël redevient une identité nationale, Israël. Et là, effectivement, on avait besoin du verset. Parce qu'on aurait pu penser que la fête de Pourim n'a de sens que pendant l'époque de l'exil. Vous savez qu'il y a des communautés pendant la galoute qui ont eu des délivrances. Il y a eu des communautés comme ça, qui ont des délivrances, et à chaque fois qu'il y a eu une délivrance dans une communauté, on faisait un Pourim. Il y a le Pourim de Francfort, il y a le Pourim de Carpentras, il y a le Pourim d'Alger. Vous avez entendu parler de toutes ces fêtes-là? Ça existe. Non, vous n'avez pas entendu parler? Mais oui, le Pourim de Carpentras. Vous ne connaissez pas le Pourim de Carpentras? Très belle fête. C'est une fête de Pourim qui était en usage chez les Juifs de Carpentras. C'était au début du mois d'Adar, quelques jours avant Pourim. C'était quoi cette fête? Il y avait un décret du cardinal du coin, parce que Carpentras appartenait au pape. Il y avait un décret d'expulsion contre les Juifs de la ville de Carpentras. Tout le monde est très embêté, qu'est-ce qu'on allait faire, etc. Bon, en tout cas, Pourim approchait, et donc les Juifs de Carpentras faisaient une représentation de Pourim sur le parvis de la synagogue, et ils faisaient des répétitions. C'est-à-dire, la petite troupe théâtrale faisait des répétitions en prévision de Pourim. Et il y avait une fille qui jouait le rôle de la reine Esther, qui se prosterne devant le roi et qui l'implore de sauver son peuple. Au moment où ça doit se passer, le cardinal en question arrive sur le parvis de la synagogue. Et la fille en question, qui croit qu'elle a devant lui celui qui joue le rôle d'Assuérus, tombe à ses pieds et elle implore en faveur de son peuple. Alors très émue, finalement le décret est aboli, etc. Et donc les Juifs de Carpentras faisaient chaque année une petite fête de Pourim ce jour-là. D'accord? Belle histoire, non? Histoire vraie en plus. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que ces fêtes-là, on peut dire que la fête de Pourim aussi est une fête de ce genre. C'est au sein de l'exil, quand ça va très mal, alors de temps en temps on se réjouit de ce qui se passe. Mais une fois l'exil terminé, une fois que c'est les descendants des Juifs, c'est-à-dire Israël qui revient sur sa terre, quel est le sens d'une fête de ce genre? Voyez-vous? Mais pourquoi s'en rappeler justement? À quoi bon se rappeler? C'est, imagine par exemple quelqu'un était hospitalisé, ça allait très mal, et puis à un moment ça a été encore plus mal. Alors il va fêter sa sortie du moment plus mal ou sa sortie totale de l'hôpital? Il va fêter le moment où il est sorti complètement. Donc, si on est sorti complètement de l'exil en 1948, c'est ça qu'il faut fêter. À quoi sert la fête de Pourim qui est un événement au sein de ça? Pourquoi s'en rappeler? Pourquoi, en tout cas, bon, s'en rappeler, d'accord, mais pourquoi faire une fête? Alors, la réponse est très simple. C'est pas très simple. La réponse est que il s'est révélé le jour de Pourim quelque chose qui n'appartient pas à l'exil, quelque chose qui dépasse les époques historiques. Qu'est-ce qui s'est révélé? Qu'Israël est indestructible. C'est-à-dire quand quelqu'un a tenté la destruction totale, eh bien, ça a échoué. Il n'a pas réussi. Ça veut donc dire que il s'est révélé qu'il y a eu un moment il y a eu un moment où on a compris que nous étions une trace de l'éternité dans l'histoire de l'éphémère, si vous voulez. C'est-à-dire les nations apparaissent et disparaissent, et puis vient un moment où, eh bien, on se révèle qu'il y a une nation parmi les nations de la terre qui est porteuse de l'identité éternelle de l'homme, et ça va disparaître. Donc ça n'appartient pas forcément au temps de l'exil, ça appartient à toutes les époques. Par exemple, aujourd'hui aussi, nous vivons une époque où nous sommes en risque de Pourim. Hein, vous savez? Il y a aujourd'hui en Iran quelqu'un qui veut faire la même chose, et c'est la même tentative. C'est la même tentative d'extermination en un jour. Il veut nous exterminer en un jour. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit hier dans une Brit Mila que Ahmadinejad, c'était la même gématria que Aman HaAgagi. Ouais. Enfin bon, c'est peu importe. Ah, ça vous impressionne, hein? Quand c'est des chiffres, ça y est, c'est impressionnant. Comment? Fallait le trouver. Bon, d'accord, ben, on l'a trouvé. Et ça se passe justement au moment où Israël est déjà revenu sur sa terre. Donc, si un événement de ce genre peut se passer, il passe indépendamment du fait si c'est pendant l'exil ou au moment du retour. C'est ce qu'on appelle le Netzach Israël, et donc ça appartient à toutes les époques. C'est la raison pour laquelle il faut perpétuer la fête de Pourim pour l'éternité. Jusque-là, vous me suivez? Très très bien. Bon. Il y a une question très grave qui se pose à propos de l'histoire de Pourim. Et là je voudrais rentrer dans le... Vous connaissez l'histoire de la Megillah? Hein? Vous connaissez? Hein? Ça commence. Qu'est-ce qui a entraîné le décret de Haman, hein? Pourquoi est-ce que Haman a voulu détruire le peuple juif, hein? Pourquoi?
Parce que Mordechai
ne s'est pas prosterné. Voilà. Donc ça, c'est l'événement clé. Mordechai ne se prosterne pas. Ça met en fureur Haman qui décide de détruire le peuple juif. Moi, je vais poser une question toute bête. Mais pourquoi est-ce que Mordechai ne voulait pas se prosterner devant Haman alors que c'était un ordre du roi qu'il fallait se prosterner devant Haman?
Il y avait des idoles, ça?
Il y avait des idoles ou ça?
Ben, près du roi.
Près du roi, il y avait des idoles? Près d'Haman? Il y avait des idoles près d'Haman? Ben, dans ce cas-là, mais il se prosterne pas aux idoles, il se prosterne à Haman. Hein, qu'est-ce que tu dis? Se soumettre à un roi. Est-ce que d'après la halakha, on doit se prosterner devant un roi?
Non, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la halakha, non, mais au niveau de l'idée, le fait de se prosterner...
Si c'est pas bien de se prosterner devant un homme, pourquoi est-ce que la halakha ne l'interdit pas?
C'est un peu comme le michté, en fait. Le michté, quand on lit dans les textes, il n'y avait rien de sourd au niveau de la halakha. Tout était caché, mais au niveau de l'idée, c'était vraiment de...
Ouais.
Ça,
c'est le michté, je veux bien, mais je parle ici de Mordechai et Haman. Est-ce que Mordechai se prosternait devant le roi?
Certainement.
Pourquoi est-ce qu'il ne se prosternerait pas devant quelqu'un dont le roi a dit qu'il fallait se prosterner devant lui?
Hein? C'était pas
l'esclave de Mordechai. Ah, ouais. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est que vous commencez à raconter l'état de réponse qui se trouve dans les commentateurs. Je vais faire avec vous une petite liste des réponses qui ont été données. Et on va voir si elles sont satisfaisantes. D'accord? D'accord, on va faire une petite liste. Là, j'ai une liste de 5 raisons différentes. La première raison qui est donnée, celle de Rashi. Rashi dit, Haman se prenait pour un dieu. Si quelqu'un se prend pour un dieu, alors c'est effectivement, impérativement, il est interdit de se prosterner devant lui. Parce que c'est un acte d'idolâtrie. Maintenant, il y a un petit problème. Comment est-ce que Mordechai savait que Haman se prenait pour un dieu? C'est dans sa pensée.
Non, il l'a côtoyé. Ça peut se traduire.
Et alors?
Il le connaît peut-être.
Il le connaît.
Quand ils étaient ensemble, on l'a vu juste à...
Oui.
Ils étaient ensemble généraux dans l'armée.
Oui, alors?
Peut-être qu'il voyait que...
Que quoi?
C'est pas quelqu'un qui...
Il le connaît, c'est-à-dire qu'il avait une intuition psychologique de qui?
Non.
Quoi? Haman lui a dit un jour, au moment du repas, comme ça, entre deux gamelles, il dit, tu sais, je suis un dieu.
Non, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas quelqu'un qui est extérieur à lui.
C'est un mégalo bien connu, c'est ça que tu veux dire, d'accord? Ça suppose donc, quand même, une connaissance intime, parce que il est probable que Haman n'a pas dit qu'il était un dieu. Pour une raison très simple, c'est que s'il le disait, le roi lui aurait coupé la tête, d'accord? C'est-à-dire qu'un ministre du roi, le roi lui-même ne se prend pas pour un dieu, que son ministre se prenne pour un dieu, c'est déjà un problème. Donc c'est quelque chose qui se passe très intimement, très très profondément chez Haman, et Mordechai le sait. Alors toi tu dis, parce qu'ils étaient copains, ils se connaissaient, etc. Je pense que cette lecture de Rashi suppose que Mordechai est prophète. C'est-à-dire, s'il est prophète, bon, ben, rien n'empêche que Mordechai sait. C'est ce qui se passe chez Haman. Ça, c'est une première lecture. Il y a un petit problème dans cette lecture, c'est que ce n'est pas écrit. C'est-à-dire cet élément qui est que Haman se prenait pour de l'arbre d'Azara n'est pas écrit dans le texte. Deuxième explication, celle donnée par Rabbi Avraham Ibn Ezra. Tout ça, c'est basé sur des midrashim. Rabbi Avraham Ibn Ezra dit que Haman portait sur sa tunique, sur son vêtement, des emblèmes ou des symboles d'Avodah Zarah. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire, de même que, par exemple, on voit chez les ecclésiastiques, ils ont une croix. Soit ils portent une croix sur la poitrine. Alors, de même, Haman, lui aussi, portait des insignes de l'Avodah Zarah. Et c'est pour cette raison que Mordechai ne se prosternait pas. Donc, on n'a pas besoin de faire ici de Mordechai un prophète, mais on fait de Mordechai un chacham, un sage, qui connaît la halakha. D'accord ? Bon, c'est pas bête, mais il y a un problème dans cette explication, c'est que... Quel est le problème dans cette interprétation ? C'est que c'est pas écrit. D'accord ? C'est-à-dire, on aimerait bien que le texte nous dise « il portait quelque chose de Avodah Zarah ». Mais c'est pas écrit. Troisième interprétation. Il y a des commentateurs qui ont dit « pas du tout ». La rivalité entre Haman et Mordechai commence bien avant. Ça commence en Eretz Israël. Mordechai étant le délégué des Juifs du moment du retour, qui voulait reconstruire le Beth Amikdash et qui voulait reconstruire la muraille de Jérusalem. D'après le témoignage de Ezra et Nehemia, les goïms des environs de Samarie, entre autres, faisaient des histoires et envoyaient des délégués auprès du roi de Perse pour empêcher la reconstruction de Jérusalem. Et effectivement, Haman était le délégué des habitants de Samarie qui partaient à Suse pour travailler contre les Juifs. Donc vous avez deux délégués qui sont envoyés d'Eretz Israël, Mordechai et Haman, qui arrivent à Shushan, chacun pour œuvrer politiquement en faveur de son parti. Et dans la route, on raconte ça, il y a un Midrash qui dit qu'en route, dans le désert, les provisions de Haman se sont épuisées. Se voyant en danger de mort, il achète des provisions chez Mordechai. Mordechai lui dit « je veux bien, mais tu te vends comme esclave ». Et le contrat de vente a été écrit sur la sandale de Mordechai. Et donc Mordechai avait une carte contre Haman. Si quand Haman passait, Mordechai levait un peu sa sandale pour le faire bisquer. Et donc Haman ne pouvait rien dire, donc il rageait à l'intérieur. Et c'est... Donc si c'est vrai ce que je dis là, Mordechai n'est ni prophète ni sage. Il est un activiste sioniste, un homme politique sioniste, qui travaille pour Eretz Israël. D'accord ? Et c'est sur l'arrière-plan de cette rivalité politique que Haman refuse de se prosterner, que Haman veut détruire Mordechai et son peuple. Jusque-là, c'est clair ? Oui ? Hein ? Oui. Ah, personne ne savait qu'il était esclave. C'était un secret. Oui, alors Mordechai attendait le moment propice pour que Haman monte et le faire descendre. C'est-à-dire, tandis que s'il avait tout de suite dit qu'il était esclave, alors les habitants de Samarie auraient envoyé quelqu'un d'autre. Oui, non, mais ce qui nous importe ici, c'est pas de savoir qui c'est qui a fait chuter. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce que Mordechai ne se prosterne pas. Pourquoi il n'a pas fait ça pour sauver le peuple d'Israël ? Je ne sais pas. Je n'ai pas toujours de réponse à tout. Mais en tout cas, ce qui me chiffonne, moi, dans mon interprétation, la troisième interprétation que je viens de vous donner, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est gênant dans cette interprétation ? C'est que ce n'est pas marqué. C'est-à-dire, on aimerait bien que le texte soit un peu plus explicite, mais il semblerait que la Megillah fait tous les efforts possibles pour qu'on ne sache pas la véritable raison pour laquelle Mordechai ne s'est pas prosterné devant Haman. Quatrième interprétation. Il y a une quatrième interprétation qu'on voit chez différents commentateurs, entre autres du XVIe siècle, selon laquelle, en fait, la loi n'obligeait pas Mordechai à se prosterner. Parce que Mordechai était le dirigeant de la communauté juive de Shushan, et il y a une loi qui était en cours, d'ailleurs dans l'Empire ottoman, mais très souvent chez les empereurs pendant l'histoire, c'est qu'on ne demandait pas, il y avait une exemption particulière des Juifs de se prosterner, par respect pour le premier peuple qui a accédé dans l'histoire à la liberté. Alors, quand le roi a décrété qu'on devait se prosterner devant Haman, évidemment, ça ne comprenait pas Mordechai. Et donc... Non, parce que... Qui est-ce que Haman côtoie? Il côtoie des princes. Il côtoie donc des dirigeants. Entre autres, le prince de la communauté juive, qui est Mordechai. Mordechai, entendant qu'il y a un décret qu'il faut se prosterner devant Haman, va faire valoir ses droits, se rend sur la place où se trouve Haman, et ne se prosterne pas. N'est-ce pas? Ne se prosterne pas, parce que, effectivement, c'est son droit de ne pas se prosterner. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Mordechai ne veut pas aller voir le roi et lui dire « Mais enfin, coupe-lui la tête, il a transgressé ton décret. » Le roi lui répondrait « Non, mais il a le droit. » Et donc, si c'est vrai ce que je dis là, Mordechai n'est ni prophète, ni sage, ni homme politique sioniste, il est tout simplement un dirigeant juif de Gola. C'est un juif de Galoute. Et bon, ça se tient. Il y a un petit problème dans cette interprétation. C'est pas marqué. C'est vrai ce que tu dis là. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Et donc, nous arrivons à la cinquième interprétation. La cinquième interprétation, qui a également ses sources, et qui, à chaque fois que je la dis, provoque un petit scandale quand même, c'est qu'on peut très bien considérer en fait que Mordechai et Esther sont des juifs assimilés. Ben, tout simplement. Mordechai, c'est un ongoï. Ça vient du dieu du tonnerre chez les Babyloniens qui s'appelait Marduk. Esther, c'est la déesse Ishtar, version babylonienne d'Astarté, la déesse de la lune. Ce qui est extrêmement incroyable, c'est... D'ailleurs, elle avait un nom juif, d'après la Megillah. Elle s'appelait d'abord Hadassa et elle a changé son nom en Esther, un signe d'assimilation. À part ça, personne ne sait qu'elle est juive. Comment ça, personne ne sait qu'elle est juive? On ne voit pas qu'elle a le Messilat Yeshari, mais un Tehilim et la photo du Rabbi Lubavitch à la maison. Et que Mordechai a un fil rouge autour du poignet. C'est ça le judaïsme, non? Et donc, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Mordechai lui dit, attends, surtout, dis pas que tu es juif, hein. Ça va me faire des problèmes. Donc il y a ici quelque chose d'extrêmement assimilateur. Alors pourquoi est-ce que Mordechai ne se prosterne pas devant Haman, si c'est comme ça? Tout simplement parce que Mordechai a sauvé le roi. N'est-ce pas? C'est lui qui a dénoncé Biktan et Teresh. Et c'est comme ça que le roi a été sauvé. Et donc Mordechai attendait de l'avancement. Et puis juste après cette histoire-là, le roi donne de l'avancement à Haman. Mordechai vexé ne se prosterne pas. Haman rage, il apprend que Mordechai est juif, il veut exterminer le peuple juif. Mordechai entend ça, il se dit « Ah, ce que j'ai fait dépasse de loin mon problème personnel. » Il réintègre le peuple juif par la force des événements. Il va voir Esther, il lui dit « Esther, il faut faire quelque chose, va voir le roi. » Il dit « Je ne peux pas. » Mordechai lui dit « Attention, ne crois pas que tu seras la seule à être sauvée. » Ça veut dire quoi? Que Esther a pensé un moment qu'elle serait la seule à être sauvée. Et alors Mordechai lui dit « Écoute, on est un peu loin de la communauté, il faut faire quelque chose. » Esther lui dit « Je veux bien, mais demande aux Juifs d'aller jeûner pour moi. » Et c'est comme ça que finalement, elle sauve la situation. Et Mordechai, à partir de ce moment-là, dans la Megillah, change de nom. Au début de la Megillah, il s'appelle Mordechai. À partir de ce moment-là, il s'appelle Mordechai Ayehudi. Il change donc de nom, et donc il réintègre son identité juive. Et c'est comme ça qu'elle continue. Alors, si c'est vrai, Mordechai n'est ni prophète, ni racham, ni dirigeant sioniste, ni dirigeant exilique, il est juif assimilé. Bon, cette interprétation est possible. Il y a un petit problème, c'est que c'est pas écrit. Sans parler du fait que ça ne correspond pas exactement à l'image classique que nous avons de Mordechai, bien que dans le texte, tout est possible. C'est pas? Et là, je pose donc deux questions. Tout d'abord, savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Est-ce comme l'interprétation numéro 1, 2, 3, 4 ou 5? Et, quelle que soit la réponse, j'ai une autre question, qui est pourquoi est-ce que le texte nous a laissé penser toutes ces 5 choses-là? Hein? Elles sont toutes vraies, quoi. Il peut être à la fois prophète et assimilé? Ça ne tient pas debout. Attends, mais si tu pouvais aujourd'hui rencontrer Mordechai, il te répondrait j'étais soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, 5, 5. Il ne peut pas être les 5 à la fois. Ah, ça voudrait donc dire que ce qui est important, c'est que chacun va lire la Megillah à partir du point où il est. C'est-à-dire, le juif assimilé va voir ça comme ça, le juif prophète va voir ça autrement, etc. Hein ? Ça va lui tomber sous les... Un jour, il va comme ça trouver, je sais pas, à la gare. Il cherche des mots croisés, il dit, j'en ai plus, monsieur, mais j'ai ça. Voilà, ah, tiens, il va aller.
C'est pas écrit, c'est que c'est important.
Ah, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas important. Ça veut dire qu'en fait, ce qui s'est passé historiquement, on ne peut pas savoir. Chacun peut prendre sa position. Mais ce qui est important, c'est que chaque dimension se cache à l'intérieur d'une autre. C'est-à-dire, c'est comme si on voulait nous dire, à l'intérieur du juif assimilé, se cache un juif communautaire. À l'intérieur du juif communautaire, se cache un juif sioniste. À l'intérieur du juif sioniste, se cache un rabbin. À l'intérieur du rabbin, se cache un prophète. C'est-à-dire que les cinq dimensions sont imbriquées l'une dans l'autre, comme des poupées russes. Comment est-ce qu'on appelle les poupées russes ? Poupée gigogne, ça c'est en français, et en russe, Matryoshka, exactement. Contrairement à l'opinion commune en Israël, qui est que ça s'appelle babushka, mais c'est pas vrai, ça s'appelle Matryoshka, absolument. Comment tu sais ça? Ah, tu le sais, bon voilà, ah, c'est extraordinaire, je suis heureux. Et donc en fait, c'est l'histoire des poupées russes. Ça veut dire qu'en fait, dans l'histoire de Megillat Esther, on apprend à découvrir ce qui est caché. Ce qui est exactement ce que veut dire le mot Megillat Esther, la révélation de ce qui est caché. Megillat, ça veut dire révélation. Esther, ce qui est caché. Alors ça répond à un autre problème qui se pose quand on lit dans la Megillah. Dans la Megillah, on voit que le nom, c'est une chose que les commentateurs ont mis déjà en évidence, le nom de Dieu n'apparaît pas. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que Dieu est partout. C'est-à-dire, si... Il y avait vous avez un texte dans lequel de temps en temps apparaît le nom de Dieu. Alors je vous demande, où est Dieu dans le texte? Ben voilà, il est là, là et là. Où est-ce qu'il n'est pas? Ben là où il n'est pas mentionné. Mais dans la Megillah, hein, il est présent partout, donc il ne peut pas être mentionné du tout. C'est-à-dire, c'est un mode de manifestation différent de tout ce que nous avons connu pendant toute l'époque du Tanakh, où Dieu se révèle. C'est une révélation à travers le caché. Et d'ailleurs, tout le monde marche de cette manière. Esther se cache, sa véritable identité est cachée. La véritable identité de Mordechai est cachée. Haman aussi, il cache son identité. Même Achashverosh cache sa véritable identité. C'est-à-dire, il y a, si vous voulez, une sorte de scène de théâtre dans laquelle chacun joue un rôle de ce qu'il n'est pas. Il fait semblant d'être autre chose. Et donc, le créateur du monde, lui aussi, se cache dans le jeu de ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Tout simplement parce que c'est le dernier épisode de l'époque biblique. C'est-à-dire, chronologiquement parlant, le rouleau d'Esther, c'est le dernier événement mentionné dans le Tanakh. C'est-à-dire, et pourquoi est-ce que le Tanakh arrête à ce moment-là? Parce que c'est le moment où la Shekhina va cesser de se manifester sur Terre. C'est-à-dire, nous entrons dans une époque de l'histoire où il n'y a pas de révélation. Oui, mais alors ce sont des restes. C'est-à-dire, dans le deuxième temple, il y a des résidus de lumière qui vont en disparaissant. Et à l'époque du deuxième temple, la Shekhina ne résidait pas. C'est-à-dire qu'il y avait... On va entrer dans un moment de l'histoire où il n'y aura pas de manifestation directe du Créateur, on n'aura pas de prophète pour interroger. Et donc, il était important de commencer l'histoire de la cachette par un événement biblique dans lequel on voit que Dieu agit à travers son cachement, si vous voulez, à travers son éclipse. D'ailleurs, c'était important. Donc c'est pour ça que ça s'est passé de cette manière. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle le théâtre a commencé chez les Juifs avec des représentations de Pourim, comme par exemple pour le Pourim de Carpentras dont nous avons parlé tout à l'heure. Vous savez qu'il y a chez les goyim quelque chose qu'on appelle le théâtre. Ça vient d'où ça? De Grèce. C'est les Grecs qui ont inventé le théâtre. Et le théâtre, à l'origine, était quelque chose de très important, c'était quelque chose de religieux. C'était même, pourrait-on dire, sacrificiel. Il y avait un sacrifice qui était fait au théâtre, on représentait des dieux, il y avait des règles très précises comment le faire, etc. Et les acteurs portaient des masques. Comme des masques de Pourim. Et chez les Juifs, il n'y avait pas de théâtre. C'était très important chez les Grecs, et ça n'existait pas chez les Juifs. Pourquoi ? Ben parce que chez les Grecs, le mot théâtre, théatron, est à rapprocher du mot théoria, qui veut dire la vision. C'est-à-dire, le théâtre est le lieu où l'on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir ? Ben on attend que quelque chose se révèle, pour être vu. C'est-à-dire, ce qu'attend le Grec, c'est la révélation du divin. Mais cette révélation ne se produit pas. Alors, entre-temps, on va faire une pièce de théâtre. On va faire comme si. Mais c'est comme si, c'est du semblant. Imaginez un acteur qui joue Hamlet. Le public est enthousiaste, il trouve ça extraordinaire. À la fin de la représentation, les artistes viennent, ils se font applaudir, et l'acteur qui jouait Hamlet continue de penser qu'il est Hamlet. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'hospitalise. D'accord ? C'est de la folie. C'est-à-dire, on sait très bien, quand on fait un jeu de théâtre, que l'on ne fait que faire semblant. On attend qu'une réalité se présente, elle ne se présente pas, alors entre-temps, on va jouer. Chez les Juifs, il y a eu une révélation, il y a le Mont Sinaï. Donc, il n'y a pas de théâtre. Les personnages sont véritablement là. Mais ça, c'est vrai jusqu'à quand ? Jusqu'à la Megillat Esther. À partir du moment où il y a l'histoire de Pourim, alors ça change. Alors c'est là qu'on va faire du théâtre. On va pendant 2000 ans, même plus, faire semblant. Et il faut apprendre qu'on a le droit de faire semblant. C'est la Megillah qui nous l'apprend. Alors, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi la fête tombe-t-elle le 14 du mois d'Adar ? Une question. Bon, ils ont jeûné le 13, ils ont fait la guerre le 13, ils se sont reposés le 14. Très bien. Et à Shushan, hein ? J'ai bien compris. Oui, le tirage au sort. Oui. Pourquoi ça a commencé par un tirage au sort ? C'est-à-dire, ça a commencé par le fait que Haman a décidé que la destruction des Juifs se ferait le 13 Adar, et donc on a fait la guerre le 13, on s'est reposé le 14, donc la fête tombe le 14. À Shushan, il y a eu encore un jour de guerre, on s'est reposé le 15, et donc c'est ça qu'on fait à Shushan le 15. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, c'est très surprenant. Vous y croyez, vous, cette histoire du tirage au sort ? Le tirage au sort, c'est un hasard, non ? Hein ? Il a choisi. Alors, pourquoi est-ce qu'il a jeté un sort, alors ? Hein, c'est calculé. Les dés étaient pipés. Il a fait exprès que ça tombe. Hein ? De l'année, oui. Oui, bien sûr. Oui, je veux bien. Mais ça cache quelque chose. D'abord, ça veut dire que l'Ashgaha, la Providence, a travaillé à travers le hasard. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Vous avez d'autres cas où la Providence passe à travers le hasard ? Dans la Torah, par exemple. Le jour de Kippour. Le jour de Kippour, quand on prend deux boucs, un qu'on envoie à Azazel et un qu'on fait sacrifier, pour décider lequel des deux boucs sera destiné à quoi, on jette un goral. Il y a un tirage au sort. C'est pas goral. Et la fête de Pourim, c'est-à-dire la fête du sort, dans la Megillah, il dit « Ipil pour hu ha goral ». Il a jeté le pour qui est le goral. Pour, c'est le mot en perse, goral, c'est le mot en hébreu. Ça veut dire quoi, hu ha goral ? C'est-à-dire que le pour correspond au goral, c'est le même que celui de Kippour. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans l'ordre du monde qui se jouent à travers le hasard. Ce sont les choses les plus élevées. Il y a des choses qui sont déterminées à l'avance, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. Il y a une sorte de causalité qui fait que ça ne peut pas se passer autrement. Par exemple, si je fais tomber une pomme, eh bien elle va tomber, c'est inévitable, sur la tête de Newton, en écrasant une coccinelle au passage. Ça, c'est absolument, ça ne peut pas se passer autrement. Tandis qu'il y a des événements, on voit d'ailleurs que tu étais au Mahon Mir il y a quelques années, parce que j'ai cessé avec cette vanne, depuis que j'ai découvert que les nouvelles promotions ne lisent plus les bandes dessinées de Gottlieb. Et en tout cas, il y a ce qu'on appelle des phénomènes prédestinés, c'est-à-dire prédéterminés. Ça ne peut pas se passer autrement. La pomme tombe sur la tête de Newton. Tandis qu'il y a des processus qui, eux, laissent une marge de chaos. Vous savez, dans les théories scientifiques modernes, on parle de ce qu'on appelle le chaos. Il y a, par exemple, la trajectoire d'une goutte de pluie ne peut pas être déterminée à l'avance. Pas être calculée à l'avance. Pas parce que nous ignorons toutes les conditions météorologiques, mais par nature. Il est dans la nature de la goutte d'eau d'avoir plusieurs options possibles de trajectoire. Donc il y a un élément de hasard qui se mêle au déterminisme. C'est une révolution dans la pensée physique, mais c'est déjà en vogue depuis à peu près quelque chose comme 30-40 ans dans la physique moderne. Eh bien, il y a cette idée également que parfois, Kadosh Baruch Hu agit à travers des phénomènes de hasard. Donc, c'est pas pour rien que à Pourim, on arrive justement à cette extrémité. Mais pourquoi justement, si déjà c'est un hasard, alors pourquoi c'était le 15 Adar? Pourquoi c'était le 14 Adar? Ben, tout simplement parce que Adar, c'est la fin de l'année. C'est le dernier mois, n'est-ce pas? Le premier mois, c'est Nissan. Adar, c'est le 12e. Et donc, à la fin de l'année préfigure la fin de l'histoire. En fin d'histoire se manifeste la présence de Dieu à travers le hasard. C'est-à-dire qu'il y a une présence totale, même à travers le hasard. Donc ça se passe au dernier mois. Et pourquoi le 15 du mois? Parce que le 15, c'est la puissance du mois. C'est là que la lune est pleine. Mais dans ce cas-là, ça devrait être le 15. Pourquoi c'est le 14? Toutes les fêtes tombent le 15. Par exemple, Pessah tombe le 15 Nissan. Et Tout Béav tombe le 15 Av. Et puis Soukot, c'est le 15 Tishrei. Et Tout Bishvat, c'est le 15 Shvat. Donc dans ce cas-là, si déjà la fête de Pourim, elle devrait tomber le 15 Adar. Pourquoi elle tombe le 14? Parce qu'elle est en dehors de son lieu. C'est décentré. C'est-à-dire, quand quelque chose n'est pas au lieu où ça devrait être, alors le temps aussi est déplacé. Où est-ce que ça aurait dû être la fête de Pourim? En Eretz Israël. Catastrophe, ça s'est passé en Galoute. C'est en dehors de son lieu, donc c'est en dehors de son temps. Mais, même en Galoute, il y a des réalités qui ressemblent à Eretz Israël. C'est là où on est protégé de la nature d'Egoïm. De la nature de Chutzlaret. C'est quoi? Eh bien, c'est là où il y a des murailles anciennes. C'est ça qui fait l'ancienneté de la protection de l'homme par rapport à la nature. Et donc ça ressemble un peu à Eretz Israël. Et donc ça tombe le 15. Jérusalem est une ville fortifiée depuis l'époque de Yoshua. Et donc à Jérusalem on fait Pourim le 15 Adar. Alors que dans le reste du pays on fait ça le 14 Adar. Alors, il y a un déplacement dans l'espace qui devient un déplacement dans le temps. Donc la fête de Pourim idéale tombe le 15. Mais c'était ce que c'était, c'est tombé le 14. Jusqu'à là vous suivez? Très bien. Eh bien, puisque vous avez si bien compris, je vous dispense de l'interrogation et le cours est fini. Shalom.